Le journal est présenté par Ilan Malka.
Bonsoir à tous. Après la manifestation raciste d'hier qui s'est finie dans le sang à Charlottesville aux États-Unis, la réaction de Donald Trump fait aujourd'hui polémique. Le président américain condamne une démonstration de haine venant de diverses parties. Il semble donc refuser de prendre position directement entre l'extrême droite identitaire et les antifascistes. Cela fait beaucoup réagir dans la classe politique américaine. Nous entendrons à ce sujet notre correspondant à Washington, Philippe Randé. Il l'avait annoncé, il a tenu parole. L'opposant kényan Raila Odinga a pris la parole aujourd'hui. Il appelle à une grève générale demain. Il conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle qui a vu la victoire du sortant Uhuru Kenyatta et qui a depuis suscité de nombreuses violences. Notre correspondant à Nairobi, Bruno Meyerfeld, fera le point pour nous. L'Italie se réjouit de la nouvelle politique de Tripoli vis-à-vis des migrants. La Libye, effectivement, a décidé de renforcer le contrôle de ses eaux territoriales. À Rome, Marie Duhamel nous en dira plus sur le sujet. Aux États-Unis, entre l'extrême droite et les antifascistes, Donald Trump choisit de ne pas choisir et se retrouve sous le feu des critiques. On rappelle qu'hier, des affrontements ont éclaté à Charlottesville entre d'un côté groupuscule identitaire et néo-nazi, de l'autre côté contre-manifestants. Une voiture a foncé dans le groupe des antiracistes, tuant une femme de 32 ans et blessant 19 autres personnes. Réaction du président américain, nous condamnons dans les termes les plus forts possibles cette énorme démonstration de haine, de sectarisme et de violence venant de diverses parties. La formule paraît donc renvoyer les deux camps dos à dos et ça ne passe pas. Sur place, Philippe Randé.
Monsieur le Président, nous devons appeler le mal par son nom. Les mots sont signés Cory Gardner, sénateur républicain du Colorado. Un peu plus tôt, Marco Rubio, autre sénateur républicain, avait lui aussi appelé Donald Trump à condamner le terrorisme des suprémacistes blancs. Des suprémacistes qui, hier, pendant plusieurs heures, ont défilé en toute impunité avec des drapeaux nazis, casques, boucliers, bâtons, gaz lacrymogène. Ils avaient tout l'attirail pour se battre face aux très nombreux contre-manifestants. Une journée de haine où les batailles au corps à corps se sont multipliées. Une journée de chaos qui s'est terminée par la mort d'une femme de 32 ans, renversée par une voiture qui a foncé sur la foule. 24 heures plus tard, Donald Trump est donc clairement montré du doigt. Hier, de nombreux habitants de Charlottesville n'hésitaient pas à le crier. Les suprémacistes blancs sont galvanisés par le président. Donald Trump, qui a dans son entourage des gens qui soutiennent ce type d'idéologie, notamment ses conseillers les plus proches, il ne veut donc pas prendre le risque de fâcher une partie de son électorat, quitte à choquer et à diviser dangereusement l'Amérique.
Un porte-parole de la Maison-Blanche précise que la condamnation par Donald Trump de la haine et de l'intolérance inclut bien sûr celle des suprémacistes blancs et des néo-nazis. A noter également que la fille et conseillère du président Ivanka Trump a, elle, dénoncé sans embâge le racisme, la suprématie blanche et les néo-nazis. Elle estime dans une série de tweets postés aujourd'hui qu'il n'y a pas de place dans la société américaine pour de telles idées. Par ailleurs, le conducteur suspect James Alex Fields Jr., un jeune homme de l'Ohio de 20 ans, a été incarcéré pour meurtre, selon les premiers éléments de l'enquête. L'homme a des liens avec les groupes suprémacistes. Au Kenya, c'est une réaction que l'on attendait depuis vendredi soir, depuis la proclamation des résultats de la présidentielle, celle du chef de l'opposition, Raila Odinga. On sait qu'il a été battu par le sortant Kenyatta et que cette annonce a plongé le pays dans le chaos avec des violences qui ont fait au moins 16 morts, même si la nuit dernière a été calme. Odinga a donc pris la parole aujourd'hui. Ceux qui espéraient qu'il allait jeter l'éponge doivent être un peu déçus. Il a promis qu'il ne renoncerait pas à contester les résultats du vote. Sur place, Bruno Meyerfeld.
Kenyatta dehors, Kibera debout. Raila Odinga arrive sous les vivas dans le plus grand bidonville de Nairobi. Autour de lui, des milliers de supporters enthousiastes. Pour apercevoir le leader, on grimpe aux arbres, on monte sur les toits de tôle. Hier, à ce même endroit, on s'est battu furieusement contre la police. Tous veulent savoir ce que pense le chef.
Les policiers sont venus ici et ont assassiné des innocents. Ils tuent et emmènent les corps dans des sacs pour dissimuler leurs crimes.
Visage fermé, regard impénétrable, Odinga ne dit que quelques mots, jure que la lutte continue, appelle à une grève générale pour demain et crie au complot.
On savait que l'armée se préparait depuis longtemps à intervenir pour aider Kenyatta et son parti à rester au pouvoir. Ils savaient très bien qu'ils allaient perdre les élections.
Vite, le leader rend la parole et l'attend à son bras droit, le sénateur James Orengo, contre les médias, contre le gouvernement, les mots dans sa bouche sonnent encore plus dur.
C'est un coup d'État. Le pouvoir fait couler du sang après une élection et il tue des gens qui se battent pour leurs droits.
30 minutes et Odinga repart. Il l'a dit, il ne prendra plus la parole avant mardi, le temps sans doute d'élaborer une nouvelle stratégie.
Et l'Union européenne notamment appelle à la modération et demande à l'opposition de manifester sa contestation par la voie légale. En Syrie, au moins 25 djihadistes du groupe État islamique ont été tués dans une opération commando menée par l'armée syrienne dans le nord-est de la province de Homs. Les militaires du régime de Bachar al-Assad ont bénéficié dans cette action de l'aide d'avions et d'hélicoptères russes. La plupart des brigades rebelles au régime sont aujourd'hui concentrées dans la province d'Idlib. C'est là que l'on trouve les opposants à Bachar al-Assad, des plus laïcs jusqu'aux plus djihadistes. C'est là également que se concentrent aussi la plupart des déplacés, notamment les derniers évacués d'Alep. Gros plan sur cette province d'Idlib par Eric Bigala.
Dans la province d'Idlib, au nord du pays, et dans la ville d'Idlib elle-même, se concentrent plusieurs centaines de milliers de personnes, notamment tous ceux de la province et de la ville d'Alep, évacués en catastrophe au début de l'année. Le maire des quartiers est d'Alep, Brita Hagi Hassan, fait des allers-retours entre la Syrie et Paris. Il tente de trouver de l'aide, notamment humanitaire, mais la rébellion est désormais presque complètement isolée et presque complètement phagocytée par les plus radicaux.
Après le dernier exode d'Alep, on a alerté sur le fait que rassembler tous ces gens à Idlib, ça peut être dangereux. Et surtout, la propagande fonctionne sur le fait qu'à Idlib, il y a Al-Qaïda, il y a Nusra et tout ça, pour préparer le terrain pour faire un deuxième Alep à Idlib.
Le régime, en effet, argue de la présence à Idlib de l'ancien front Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, pour assimiler tous les habitants de la province à des terroristes.
Là, dans les prochains mois, c'est-à-dire ce qu'on craint, surtout que Al-Qaïda prend le terrain à Idlib, en sachant que leur travail est facilité par le régime et l'Iran, pour que ça donne les raisons pour un bombardement encore plus intensif, de dire, devant le monde en tout cas, de dire voilà, c'est, ici c'est des radicaux, donc on va les bombarder. Même la coalition internationale va y participer.
Les djihadistes de l'ancien front Al-Nusra ont pris ces dernières semaines la ville frontière entre la province d'Idlib et la Turquie. Ils ont également une très forte présence dans la capitale provinciale. Les avions de la coalition internationale, de leur côté, n'hésitent pas déjà à frapper ces djihadistes quand ils en ont l'occasion. Quant aux civils, ils se retrouvent une fois de plus otages de la situation, coincés entre le marteau des bombardements aériens et l'enclume djihadiste.
Et on apprend qu'aujourd'hui, Abdul Rahman, haut responsable du groupe État islamique en Afghanistan, a été tué dans un bombardement avec d'autres chefs locaux du groupe. C'est en tout cas ce qu'affirme l'armée américaine. L'Iran assouplit sa législation anti-stupéfiants. Depuis aujourd'hui, les cas d'application de peine de mort dans des affaires de trafic de drogue sont réduits. Auparavant, on pouvait être condamné à la peine capitale pour production ou distribution de 30 grammes d'héroïne. À partir d'aujourd'hui, il faudra 2 kilos pour cela. Cet amendement voté par le Parlement pourrait sauver la vie de plusieurs condamnés puisqu'il va s'appliquer de manière rétroactive. Il faut encore pour cela qu'il soit validé par le Conseil des gardiens de la Constitution. Va-t-on vers une collaboration entre Rome et Tripoli pour réduire les départs de migrants libyens ? C'est ce qui semble se dessiner. Aujourd'hui, l'Italie approuve l'intensification par Tripoli du contrôle des eaux territoriales libyennes. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Angelino Alfano. Marie Duhamel est notre correspondante à Rome.
Dorénavant, le gouvernement libyen interdit à tout navire étranger de pénétrer dans ses eaux territoriales et même au-delà, dans une zone de recherche et de sauvetage dont il vient d'annoncer la création. Ce dimanche, le chef de la diplomatie italienne se félicite de ce rééquilibrage en cours en Méditerranée. Une réaction peu surprenante car face à l'absence de solidarité de ses partenaires européens, l'Italie est passée seule à l'offensive pour limiter le nombre d'arrivées sur ses côtes, 600 000 en 4 ans. En moins d'un mois, Rome est parvenue à imposer un code de conduite aux ONG engagées en Méditerranée. Il fallait aussi opérer en amont, plus de 90% des embarcations de migrants partent de Libye. Rome s'est donc entendue avec Tripoli. À la demande du gouvernement de Fayez al-Sarraj, le Parlement italien a approuvé une mission navale dans les eaux libyennes pour apporter un soutien technique, une formation aux gardes-côtes libyens. Jeudi, ces derniers ont menacé mitraillette en main un bateau humanitaire poussant trois ONG, dont MSF, à suspendre ce week-end de leurs activités. Ces eaux n'appartiennent plus à personne, sinon à la Libye, soutient Angelo Alfano. Pour éviter les morts en mer ou sur le sol libyen, le ministre italien estime qu'il faut empêcher les départs, ce qui permettra aussi de lutter contre les passeurs, mais également financer les agences de l'ONU pour qu'elles garantissent des conditions dignes aux migrants dans les camps libyens. Un énorme financement européen en Libye est nécessaire, assure-t-il.
On apprend également qu'aujourd'hui, l'ONG allemande CI annonce la suspension de ses opérations de sauvetage des migrants en Méditerranée dans un communiqué. CI dit prendre cette décision le cœur lourd en raison d'une menace explicite du gouvernement libyen aux ONG privées. On reste toujours dans le sujet des migrations, mais cette fois-ci outre-Atlantique. Depuis quelques semaines, un grand nombre de demandeurs d'asile frappent aux portes du Canada en provenance des États-Unis. Du 1er au 7 août, près de 1800 personnes ont traversé clandestinement la frontière canado-américaine au Québec. 80% de ces arrivants étant originaires de Haïti. Ils craignent en réalité d'être expulsés des États-Unis, car le président Trump a menacé de mettre fin au statut temporaire de réfugiés qui s'applique aux Haïtiens depuis le tremblement de terre de 2010. Voilà pourquoi des milliers d'entre eux et d'entre elles se retrouvent à Montréal. Sur place, Pascal Guéricola.
Les demandeurs d'asile au Canada passent facilement 2 ou 3 jours actuellement au poste frontière près de Montréal. Depuis peu, ils ne dorment plus par terre dans la douane, mais sous une tente militaire installée à proximité par l'armée. Une fois leur dossier en partie complété, les voilà dans des hébergements d'urgence à Montréal. Selon l'avocate Marie-Josée Blain, qui suit le dossier de plusieurs migrants, ces demandeurs d'asile ne font plus confiance au gouvernement américain.
Ils craignent énormément d'être refoulés, d'être retournés en Haïti, craignant pour leur vie là-bas.
J'ai transféré des gens parce qu'on n'avait plus de, couches.
L'importante communauté d'origine haïtienne de Montréal se mobilise pour venir en aide aux nouveaux venus. Dans l'appartement d'une citoyenne transformée en entrepôt, cette jeune haïtienne a trouvé une poussette pour sa fille de 14 mois. Sa fille qu'elle a portée dans un sac lors du voyage à pied de 5 jours qu'il a mené de Colombie au Panama pour finalement aboutir aux États-Unis.
Oui, ou qui
ils ont été obligés de jeter leurs vêtements parce que c'était trop pour eux autres, puis continuer à appeler à pied parce que c'était trop.
Aujourd'hui, elle dispose d'un petit appartement, mais toujours pas d'un statut de réfugié.
Pascal Guéricola. Au Danemark, cette affaire extrêmement mystérieuse. C'est une journaliste du New York Times de 30 ans qui est portée disparue. Elle était à bord d'un sous-marin, le Nautilus, pour écrire un reportage sur son créateur. Le sous-marin a coulé vendredi, mais la journaliste n'a pas été retrouvée. Fait troublant, la police danoise évoque fortement l'hypothèse d'un acte volontaire à l'origine de ce naufrage. Le créateur du sous-marin aurait-il tué la journaliste avant de faire volontairement couler le navire pour maquiller son crime? C'est une hypothèse. L'homme, en tout cas, a été placé samedi en détention provisoire. Il est soupçonné d'homicide involontaire. De nombreuses personnes en difficulté en France face à la baisse annoncée des contrats aidés. C'est une information que France Bleu Normandie nous révèle ce matin. La ministre du Travail a annoncé vouloir réduire la voilure en termes de contrats aidés. Muriel Pénicaud, effectivement, les juge inefficaces et coûteux. Cependant, alors que certains contrats ont récemment été signés par des employeurs et des employés, des dizaines viennent d'être purement et simplement annulés. Les pôles emploi se sont vus en effet demander de les arrêter. Il en résulte quelques situations ubuesques. On écoute Véronique Riesco, qui est responsable régionale de la CGT pour Pôle emploi.
On a reçu lundi matin une injonction d'arrêter tous ces contrats. Alors voilà, effectivement, derrière, on va devoir gérer à la fois le mécontentement complètement compréhensible des demandeurs, des structures, et puis le conseiller en lui-même, c'est très difficile à vivre dans le cadre de ces conditions de travail, parce que c'est le mépris de tout le travail qui est fait en amont, quoi. On aurait simplement dû nous dire, attention, à partir du 15 septembre, il n'y aura plus de possibilité d'ouvrir des contrats. Et là, c'est boule pour point et ça met des personnes en grande situation de précarité une fois de plus, voire même financièrement, parce que il y a aussi des gens qui, pour accepter sur un contrat comme ça, font des concessions d'ordre de vie privé, déménagement, changement de voiture, et ça engendre forcément des frais, quoi.
Propos recueillis donc par nos confrères de France Bleu Normandie. En Corse, quelques 150 personnes se sont rassemblées aujourd'hui devant 2 villas construites par Pierre Ferracci, PDG du groupe Alpha près de Bonifacio. Et il avait été condamné par la justice à 1 million d'euros d'amende pour travaux réalisés sans permis de construire. La justice n'avait cependant pas ordonné la destruction des maisons. Les manifestants ont demandé à ce que les constructions disparaissent afin que le site soit remis dans son état originel. Demain, c'est du beau temps sur la quasi-intégralité du pays. C'est un peu nuageux sur la moitié nord. Il pourrait y avoir quelques petites averses gentillettes sur la Normandie en fin d'après-midi, mais mis à part cela s'est ensoleillé partout. Les températures de la matinée partent de 17 degrés dans le Finistère. Elles montent jusqu'à 28 en Haute-Corse. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Il a été réalisé à la technique par Dophar Guéride.